bien Arnaud, on est au cinquième et dernier module de ce cours dédié au plan d'emploi d'activité avec la réplication de VM de Hyper-V à destination d'Azure Site Recovery. Et là, on va rentrer dans le module ultime, c'est-à-dire celui où on va parler du dimensionnement et des bonnes pratiques associées pour utiliser ces technologies.
Une question qu'on a tout le temps, évidemment, la première question, c'est quelle bande passante j'ai besoin pour mettre en œuvre cette Hyper-V réplica vers Azure ou d'ailleurs vers autre chose dans mon data center. La bonne réponse,
c'est ça dépend.
Voilà.
Alors ceci n'est pas une réponse de consultant, même si ça pourrait y ressembler. C'est une réponse qui est complètement légitime, parce que ça va dépendre effectivement de ce que vous avez comme charge qui va travailler sur vos serveurs, de nombre de machines virtuelles, de volumétrie, d'activité sur vos machines virtuelles. Et je pense que toute personne qui s'autorisera à répondre au taquet dans la seconde à cette question sera soit
un escroc, soit un incompétent,
voilà.
Ce qui n'est pas mutuellement exclusif et peut tout à fait être combiné dans toutes les configurations possibles.
Donc attention à toutes les personnes qui vous répondent immédiatement sur ce genre de choses, parce que même nous, on n'est pas capable de vous donner la réponse. Donc il va falloir dimensionner avant de répliquer sur le WAN.
On s'en doute bien, c'est un serveur web statique, hein, il n'y a pas grand-chose qui va être sans doute transmis à travers le câble toutes les 15 minutes, 5 minutes ou 30 secondes. Par contre, si on est en train de répliquer un serveur SQL qui est en train de bastonner sur le disque comme un ours, comme on dit en langage technique, bah forcément il y aura plus de choses à transmettre sur le câble aux intervalles qu'on aura définis, donc forcément besoin de plus grosses bandes passantes.
Exactement. Plus d'autres questions qui viennent également en général après la fameuse question de la bande passante qui sont mais est-ce que la réplication a un impact sur mon processeur, mon CPU? Est-ce qu'il y a un impact sur ma mémoire? Est-ce que ça demande de l'espace disque? Est-ce que je vais avoir des performances sur mon stockage? Est-ce que ça va impacter? Parce qu'il y a quelque part, il y a des réplicas, des logs qui sont créés. Et puis, pose toujours cette question de la bande passante.
Et la réponse, c'est oui.
Oui. Et donc, on a un outil désormais qui s'appelle le Capacity Planner for Hyper-V Replica, qui est actuellement en version 2, que vous pouvez télécharger dans sa dernière version sur cette URL ici, aka.ms/hyper-v-replica-sizing. Et plutôt que des mots, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, cet outil, en fait, est donc un exécutable qu'on télécharge, qu'on exécute. Idéalement, le mieux avant d'envoyer des choses sur du WAN, c'est d'avoir deux serveurs Hyper-V, donc votre serveur de production, et vous prenez une autre machine à côté qui vous servira de réplica, qui vous permettra de faire le dimensionnement, entre guillemets, réellement de la réplication de CVM d'un espace A vers un espace B. Parce que là, les chiffres vous permettront de vérifier si effectivement vous avez une bonne volumétrie.
Petite astuce futée.
Exactement. Donc cet outil, en fait, il vous permet de faire vraiment l'assessment de l'ensemble des choses. Alors, vous allez avoir ici une durée de... une durée du test en fait de cet outil. Plus la durée est longue, plus les données résultantes sont pertinentes. Si vous faites un test d'activité sur 30 minutes, ce n'est pas forcément représentatif de l'activité globale de vos serveurs sur l'ensemble de la journée ou de la semaine. Donc à la limite, plus c'est long et meilleur c'est au niveau des résultats.
J'ai l'âge de vérifier ici aussi.
Exactement. Donc là, on va prendre 30 minutes juste pour l'exemple. Vous donnez ici le ou les serveurs Hyper-V ou le cluster Hyper-V source. Donc ce sera ici, effectivement, là où il y a OVM. Ensuite, vous allez dire, je vais te donner le nom de mon serveur réplica. Donc ce sera la deuxième machine qui sera à côté dans votre data center, juste pour cette opération de dimensionnement préalable avant d'envoyer dans Azure. Donc là, vous dites par exemple ici, je vais prendre mon serveur de réplica. Voilà. Donc l'outil fonctionne pour la réplication également purement Windows, Hyper-V réplica entre serveurs dans vos data centers et supporte la réplication étendue, c'est-à-dire le réplica dans réplica. Ici, on va faire un skip ici du test, ce n'est pas nécessaire pour ce qu'on veut faire. Et ensuite, vous allez sélectionner les machines virtuelles qui sont encore disponibles, non répliquées, sur le site de départ.
Et donc, c'est lui qui va activer la réplication pour vous, c'est ça? Ou faudra l'activer assez
séparément? En fait, il va simuler surtout. Il va pas, c'est vraiment un simulateur, mais l'idée, c'est qu'il va mesurer du coup combien il y a besoin. Donc, on va prendre par exemple cette VM avec ce disque dur. Donc là encore, c'est intéressant de pouvoir sélectionner le disque dur, parce qu'on le verra dans les bonnes pratiques, qu'on peut faire des choses pour justement limiter les choses à répliquer. On clique sur suivant, et on dit, voilà, la bande passante que j'ai d'estimée, elle est Intel. Donc, vous imaginez que votre bande passante WAN est maison de 100 mégas. Vous dites, voilà, j'ai une bande passante de 100 mégas. C'est une estimation. Et donc, du coup, à partir de là, quand on verra les rapports, il dira « Ok, tu avais ça d'estimé, mais j'ai vu ça en réel. » On clique sur « Suivant », là, vous avez un petit résumé et vous envoyez le tout. D'accord ? Donc, l'outil va mouliner, va faire des tests d'envoi de données, mais pas forcément… il supprimera le tout après, c'est vraiment fait pour faire un test. Ça ne va pas vous configurer toute l'application et après, ce sera juste de l'interne à l'interne.
En gros, il va lancer de la collection sur le serveur source.
Ouais.
Et puis, il va collecter tout ça et puis vous donner un rapport par rapport à ce que vous lui avez défini dans cette assistance.
Exactement. Et puis, il va estimer ce que ça générerait sur le serveur d'en face en termes d'overhead, etc. Donc, je ne vais pas le laisser tourner parce que ça prendra une demi-heure. Mais je vais vous montrer. Donc, le résultat, c'est un fichier en fait HTML qui est un rapport et qui ressemble à ça. Donc, première section, tout ce qui est donc ce qu'on a mis comme données en entrée, c'est-à-dire serveur 1, serveur 2, quelle version d'OS, le nombre de machines et la taille des VHD associées à ces machines à répliquer. D'accord ? Donc là, si c'est simple, j'ai juste une machine, on aura compris que c'est pour l'exemple. Ensuite, ça va donner un impact des processeurs avant activation et post-activation du réplica. Donc, sur le réplica, dans le cadre de Azure, vous en moquez un petit peu, c'est notre data center qui va encaisser la charge. Mais c'est intéressant de savoir, par exemple, que sur votre serveur d'origine, vous allez avoir un léger overhead d'1,4%. Bon, là, parce qu'il n'y a qu'une VM, mais imaginez après, si vous avez peut-être 30 VM qui tournent, ça peut avoir un impact. Donc, c'est intéressant de savoir, effectivement, l'overhead lié à la réplication de plein de VM qui ont de l'activité.
Ce qu'il me dit, c'est qu'il a ajouté 3%, effectivement, par rapport au 1,4% qu'il a détecté.
Exactement.
Comme activité,
donc,
c'est ça.
Voilà, utilisation de CPU post-activation du réplica, on est à 4,4% alors qu'on était à 1,4% avant. Donc on a pris 3% ici sur cette... Ça fait gros parce qu'on n'avait rien au départ.
C'est un petit peu le coût de la sécurité de toute façon.
Exactement. Pareil en termes de mémoire, d'origine et post-activation, vous avez les chiffres ici derrière. Les IO par seconde, c'est probablement ça qui est intéressant parce que quand on va faire de la réplication, on va avoir effectivement les écritures directement dans les disques virtuels de la VM d'origine. Et en parallèle à côté, vous avez les écritures de log qui sont ensuite shippées vers le serveur de réplica de destination Azure ou un autre serveur Hyper-V.
Ça va, elle est plutôt calme ta VM là. 2,6 IO par seconde en pic.
Non, celle-ci, elle est pas. On a compris que c'était pour exemple. On a les impacts des réplicas sur les IO sur le réplica. Donc ça, également, on s'en moque parce que ce sera Azure qui va l'encaisser. Mm-hmm. Dans le cas d'intra data center, ça peut être intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les stockages additionnels, si effectivement on veut faire différents snapshots complémentaires. Les stockages étendus quand on est dans le réplica dans réplica. Et c'est probablement ça qui nous intéresse le plus dans le cadre de Azure, cette fameuse question de la bande passante. Là, on vous dit, ben voilà, parce qu'il va simuler l'activité et ce que ça enverrait sur le câble. Il dit, ben écoute, ce qui était estimé, là tu m'avais mis, c'était 50 mégas. Alors là, tout à l'heure dans l'assistance, je vous ai mis 100, mais quand j'ai lancé celui-ci, j'avais mis 50 mégas de bande passante. Mm-hmm. Il me dit, écoute, moi ce que j'ai observé là, c'est 222 mégas.
Ah ouais. Donc peut-être falloir élargir le tuyau.
Ben, là en fait, il était sur un LAN, donc du coup il en a profité. Mm. Donc à vous peut-être de mettre juste un équipement ou de faire une QoS pour limiter à ce que vous pensez bon et vous vérifiez après si effectivement ça correspond.
Il sera là de calibrer effectivement si avec l'intervalle de réplication que j'ai mis, ça passe.
Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que de savoir, c'est que par défaut, en fait, les transferts en parallèle envoyés d'Hyper-V Replica vers Azure ou vers un autre serveur Hyper-V, c'est de 6 transferts en parallèle. Donc imaginez que vous avez 30 VM qui ont 10 disques durs chacun attachés et que vous vouliez par exemple un RPO de 30 secondes. Ça veut dire qu'en gros, ça va énormément bastonner, qu'il y a probablement, à un moment, il va y avoir des pertes de cycle de réplication parce qu'il y aura trop de choses qui doivent être faites et qu'en parallèle, c'est 6 maximum. Donc là, après, ce paramètre-là peut être modifié, peut être tuné, on le verra après dans les éléments. Voilà. Donc c'est un indicateur qui peut vous montrer effectivement que si une VM elle a une grosse activité, elle génère beaucoup de données, du coup, ça va avoir besoin d'un petit peu plus de réplication.
Alors, quelques astuces, quelques bonnes pratiques. Un petit peu comme on le fait sur Azure, on va vous recommander de mettre tout ce qui est fichier d'hibernation, fichier de paging sur un disque dur virtuel différent Et puis, ben, vous n'avez pas besoin de le répliquer, ça, puisque quand vous avez une VM qui est répliquée, vous récupérez une machine qui est offline. Donc, l'état du pagefile, l'état du hyperfile, tout ça, on s'en fout complètement.
Chez Temp, c'est pareil, on s'en moque.
Donc, pas perdre de temps pour répliquer des trucs qui contiennent des trucs pas intéressants. Du coup, effectivement, on va exclure le VRG qui contiendra tous ces fichiers système.
Du coup, on peut même vous dire, c'est intéressant de le mettre de configurer sur des deux points, parce que dans Azure, les VM ont toujours un des deux points qui est ce fameux disque volatile. Donc, ça peut être une bonne pratique, effectivement, sur site, désormais, de toutes les VM qu'on veut répliquer, leur créer un D2 point qui sera la zone volatile.
Pareil, on peut gagner un petit peu de temps avec les fonctionnalités à la demande, c'est-à-dire en gros avoir un repository central dans lequel on mettra les fichiers système d'un certain nombre de binaires de Windows. Ça ne va pas être la révolution, ça va permettre d'économiser quelques centaines de megs, mais si vous avez beaucoup de serveurs, et bien quelques centaines par quelques centaines, ça commence à faire des gigas. Vérifier l'état de la réplication, utiliser les outils intégrés de surveillance, voir si ça se passe bien, voir si pendant les intervalles de réplication qui sont définis, bah, ça passe. Et puis, tester le failover, parce qu'effectivement, un plan de reprise d'activité, ça se teste.
Et on a vu en plus que du point de vue des interfaces et de la configuration, c'est super simple et c'est très très bien fait dans Azure pour faire ces choses-là.
Donc, plus d'excuses pour ne pas le faire.
Exactement.
Maîtriser la bande passante, mettre de la QoS en place, etc. Ces bonnes pratiques, elles sont de toute façon recommandées par un petit truc qui s'appelle le Hyper-V Best Practices Analyzer, qui va nous permettre de donner un certain nombre de recommandations comme ça, assez génériques, mais qui s'appliquent à la configuration. Là, on voit effectivement que dans le BPA, il nous dit configurer une stratégie pour limiter la bande passante sur le réseau pour faire qu'évidemment le PRA est en train de saturer la bande passante et en train de bugger la production et les utilisateurs.
Si on n'a pas d'équipement réseau pour faire le contrôle de la bande passante, etc., on peut également le faire directement depuis Windows, en fait.
Avec des stratégies de groupe ou alors en mode directement en PowerShell, avec cette petite commande new netqs policy, etc., etc.
Et si on veut faire des choses très fines en disant ben, c'est vraiment cette QoS, elle s'applique que pour aller vers tel data center où je réplique, etc., là encore, tout est documenté. Vous avez cette URL, akm.ms/url/cloud, qui contient la boîte à outils des solutions de cloud Microsoft, et dont les liens vers les data centers et les noms de domaine utilisés par Azure et Microsoft Online.
Voilà pour ces quelques bonnes pratiques. Dans le prochain module, on verra quelques notes concernant la surveillance et le dépannage de tout ça.